Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Ne jamais parler de soi, telle fut la règle qui prévalait dans la famille d'Éric Roussel. Qu'à cela ne tienne, le jeune homme racontera plutôt le destin des hommes d'État les plus marquants du XXe siècle. Aujourd'hui écrivain et membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Éric Roussel est devenu celui qu'on surnomme le biographe des présidents. Il commence en 1984 avec Georges Pompidou, une biographie qui a fait date, suivie par d'autres de Charles de Gaulle, Nicolas Sarkozy en passant par François Mitterrand. L'histoire contemporaine est pour Éric Roussel une source d'inspiration qui le nourrit depuis 40 ans et aujourd'hui il nous raconte l'envers du décor de toutes ces années d'observation. Dans son dernier livre, C'était le monde d'avant, il raconte les coulisses de ses rencontres les plus insolites avec Jacques Chirac, Pierre Mendès France ou encore Valéry Giscard d'Estaing. Ils nous fait rentrer dans l'intimité de tous ces personnages qui ont fait la France d'hier et dans la sienne un petit peu également. Et nous sommes très heureux de le recevoir aujourd'hui à l'Institut. Éric Roussel, bonjour.
Bonjour.
Alors, ne jamais parler de soi, c'est la règle qu'on vous a effectivement inculquée dès le plus jeune âge. Il vous aura fallu des décennies pour briser l'interdit familial. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant de publier ce livre dans lequel vous vous racontez beaucoup à travers vos rencontres avec des hommes politiques de premier plan ?
Parce que ça, c'est une question d'âge. Il arrive un moment où on a envie non pas de se mettre en avant, mais d'expliquer, au fond, c'est une question un peu d'honnêteté. D'ailleurs, il y a toute une, en ce moment, les historiens multiplient les récits d'égo-histoires. Bon, c'est une sorte de je dis pas que c'est une mode, mais c'est un... Oui, je pense que c'est une question d'honnêteté, c'est de dire d'où l'on parle, finalement. Et voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. C'est pas pour étaler, d'ailleurs. Je parle de moi, mais dans des limites assez restreintes.
Dans la première édition du livre, apparaissait en sous-titre sous la couverture un bandeau, tout ce qui m'était impossible de révéler. Aujourd'hui, il y a prescription, on peut dire.
Le but du livre n'est pas de révéler des secrets inavouables. Ce que j'ai voulu montrer, c'est un aspect surtout... insister sur l'aspect humain, au fond, de ces rencontres.
Mais avant de parler des biographies, je voulais revenir sur la démarche qui a enclenché l'écriture de ce livre-là. Ce qui distingue ce livre des précédentes biographies que vous avez écrites, c'est que vous utilisez le jeu, enfin, vous parlez à la première personne.
Oui, c'est difficile de faire autrement, là.
Et vous dites, sur le fait d'utiliser cette première personne, vous dites que le jeu affranchit l'écriture d'une certaine retenue. Et vous êtes senti plus libre dans l'écriture de ce livre ?
Oui, je me suis senti plus libre. Je n'ai pas eu l'impression d'être vraiment contraint quand j'ai écrit mes autres livres, mais c'est vrai que le but d'une biographie, c'est pas de parler de soi, en principe. Donc là, c'était une autre règle du jeu, donc forcément, ça donne une plus grande liberté. Et puis, il y a aussi un effet qui a joué, c'est le recul qu'on a. À partir du moment, il y a des choses qui sont peut-être plus difficiles à dire sur le moment, avec un recul de la biographie de Pompidou dont vous avez parlé. Elle a 40 ans maintenant. Il y a des choses, si vous voulez, qui sont plus faciles à dire aujourd'hui. Ça ne change pas fondamentalement comment est-ce que j'ai pu dire sur les uns et les autres dans le cadre de la biographie. Ça apporte, disons, un complément, peut-être d'ordre humain.
Et... Grâce à l'épreuve du temps. Et je voulais revenir d'ailleurs sur votre toute première biographie, vous l'avez déjà évoquée, celle de Georges Pompidou. Alors, vous avez plus ou moins expliqué les raisons qui vous ont poussé à écrire cette biographie, mais tout de même, pourquoi commencer avec cet homme connu pour sa nature très, très réservée, très, très discrète ?
Objectivement, c'est un peu le hasard. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, je me destinais à l'enseignement du droit constitutionnel et je cherchais un sujet de thèse, qui n'avait pas été traité. Et Pompidou venait de mourir. C'est en discutant avec des amis, tout le monde m'a dit « mais voilà un sujet, parce qu'il vient de mourir ». Donc c'est comme ça que ça s'est fait au départ. Alors j'avais évidemment quand même un intérêt pour le personnage, c'est pas... Enfin, depuis 40 ans, Pompidou est un sujet qui m'occupe quand même. Et c'est vrai que ce n'était pas prévu du tout au départ. Mais l'idée aussi, si je peux ajouter quelque chose, c'est... on m'a collé cette image, le biographe des présidents. Alors, j'ai écrit sur d'autres personnages. J'ai écrit sur Jean Monnet, j'ai écrit sur Pierre Brossolette, qui est un grand résistant. Mais disons que tous les autres, que ce soit parmi ceux qui n'ont pas été présidents, qu'il s'agisse de Mendès France ou qu'il s'agisse de Jean Monnet, au fond, je me suis aperçu que plus ou moins consciemment, moi, il y a un thème qui m'a toujours intéressé, faut qu'il n'est pas très à la mode aujourd'hui, qui est un peu en mauvais état, c'est l'Europe. Ça a été quand même la grande aventure après la Seconde Guerre mondiale. Je me suis aperçu finalement qu'à travers tous ces personnages que j'ai évoqués, c'est-à-dire De Gaulle, évidemment, De Gaulle et Jean Monnet essentiellement, mais aussi Mendès France, Pompidou, et puis Giscard, qui est une de mes dernières biographies. J'ai essayé de voir comment, à travers la destinée de ces personnages, la France avait pu s'adapter finalement à sa situation nouvelle consécutive à la Seconde Guerre mondiale. Alors au fond, la question était assez simple, est-ce qu'il fallait continuer la politique de puissance, au fond, qui était la traditionnelle depuis Richelieu, ou inventer quelque chose de nouveau qui induisait des transferts, voire des partages de souveraineté. Alors, les deux personnages les plus emblématiques de ce choix, évidemment, c'est De Gaulle et Monnet, parce que ce sont deux options complètement différentes, même s'il y a des points de jonction. Mais en réalité, tous les autres, finalement, ont été confrontés au même problème, plus ou moins,
et au
même dilemme.
Et c'est vraiment le point commun que partagent tous les hommes que vous évoquez.
Voilà.
C'est l'intégration européenne.
Oui.
Et même si certains étaient connus pour une vision souverainiste, comme Charles de Gaulle, par exemple, tous souhaitaient malgré tout une construction, une intégration européenne.
Oui, bien sûr. De Gaulle avait une idée, contestablement, de l'Europe, qui avait vocation pour lui, surtout, à s'affranchir des États-Unis. En ce sens, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il a eu absolument raison, puisque ce qui se passe en ce moment avec la perspective de la réélection de Trump montre bien qu'on ne peut pas compter sur la puissance américaine pour défendre l'Europe. Mais il y avait chez lui aussi l'idée de... c'est l'idée qu'il a exprimée dans cette formule, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire une Europe qui serait allée vers l'Est. Alors pour le moment, évidemment, ça, cette dimension-là, elle paraît mal engagée.
Et justement, pour rentrer dans le détail de la vision de Charles de Gaulle, vous disiez à l'instant que son modèle relevait plus de celui de Richelieu.
Oui.
Vous dites que le modèle de gouvernance de Charles de Gaulle n'était pas Napoléon, mais Richelieu. Quelle différence vous faites entre ces deux personnages, Richelieu et Napoléon ?
Il y a d'abord le fait que Richelieu, en principe, était un chrétien, même s'il avait une conception du christianisme qui est peut-être plus tellement répandue aujourd'hui. Enfin, tandis que Napoléon était un homme des Lumières. Donc ça induit une différence, c'est-à-dire que Napoléon était un homme absolument sans limite et qui avait une sorte de volonté de puissance. Richelieu, c'est difficile, c'est plus complexe. C'était un homme très dur, qui avait tout le monde le sait, qui était un fervent de ce qu'on appelle la raison d'État. Mais il y avait aussi chez lui, c'est ça qui le rapproche, enfin qui rapproche plus exactement De Gaulle de lui, ce que j'appelle une fonction sacrificielle du pouvoir. C'est-à-dire qu'il savait que l'exercice du pouvoir n'est pas innocent, et que ça impose l'application de la raison d'État implique qu'on prenne sur soi d'assumer des décisions qui sont quelquefois terribles. Et ça a été le cas de De Gaulle en plusieurs circonstances. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est que c'est pas du tout, ça relève pas d'une interprétation. C'est vraiment ce que De Gaulle écrit. De Gaulle dit qu'il admire surtout Bonaparte, parce que surtout la façon dont il a mis fin à la Révolution française, ce qui était quand même pas mince. En revanche, il est beaucoup plus critique. Il était beaucoup plus critique sur l'œuvre de Napoléon, qui s'est quand même mal terminée. Mais d'ailleurs, ça amène d'ailleurs à une réflexion. Sur au fond, De Gaulle et l'histoire. Il a un rapport à l'histoire, je crois qu'on comprend mieux avec le recul. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, à la fois en lisant tout ce qu'il a écrit, en décryptant tous ses actes, il y a cette formule de Malraux qui le définit assez bien. Il dit c'était un homme d'avant-hier et d'après-demain. Et c'est quelque chose de très juste. C'est-à-dire que la culture de De Gaulle, c'était pas la culture d'un homme de son temps, c'était la culture d'un homme qui est plutôt du 19e siècle, qui avait une très grande culture historique, littéraire, etc., comme on en a plus aujourd'hui. Enfin, il y a très peu d'hommes politiques qui ont cette culture, je crois. On peut même dire qu'il n'y en a plus. Mais qui, en revanche, avait une culture qui était complètement en décalage par rapport à la culture de son temps, c'est-à-dire la Troisième République. C'est très frappant de voir que il a tenu un registre assez précis de ses lectures. Et on voit très bien que la période du XVIIIe siècle, enfin les Lumières, notamment les Lumières françaises, ne l'intéresse pas du tout. Et quand il en parle, c'est toujours de façon extrêmement négative. Et c'est très frappant. Or, les Lumières, c'est quand même... le choubassement de la Troisième République.
Tout. Qu'est-ce qui l'intéressait alors?
C'est un homme du grand siècle de Gaulle. C'est un homme du XVIIe siècle. Et quand il arrive, quand il fait irruption dans l'histoire de France, c'est peut-être justement parce qu'il a ce rapport très, très singulier. Finalement, tous les autres sont englués finalement dans des histoires, ils n'ont pas de liberté de manœuvre. Enfin, intellectuellement, ils sont pris dans un... C'est très frappant, notamment dans le cas du président du Conseil de l'époque, Paul Reynaud. C'est assez frappant de voir que De Gaulle, au fond, la formule de Malraux est très exacte, c'est-à-dire un homme d'avant-hier, oui, avant-hier par sa culture, et d'après-demain, et c'est vrai qu'il se projette, que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, on s'aperçoit que, je ne dis pas qu'il a tout, il lui est arrivé de se tromper.
Oui, mais ce qui a causé sa chute, c'est...
C'est le... Alors là,
c'est l'absence,
oui.
Disons, d'implication dans les affaires intérieures. Enfin,
quand mai 68 arrive, évidemment, là, il est complètement en décalage, parce que c'est un univers... J'ai appelé dans la biographie que j'ai consacrée à De Gaulle, j'ai donné pour titre au chapitre sur mai 68, un autre monde. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un... là, il est confronté à des revendications auxquelles, il faut bien dire, il ne comprend pas grand-chose. Il faut dire que c'était très confus. Et pour lui, les revendications de ces jeunes qui n'avaient pas connu la guerre, qui vivaient dans la prospérité, c'était incompréhensible. Il en parlait d'ailleurs avec ses petits-enfants et il les interrogeait. Vraiment, il ne comprenait pas ce qui se passait. Au contraire d'un homme comme Pompidou. Pompidou était un homme, à certains égards, assez conservateur. Mais il avait, en raison de sa culture, qui était tournée vers la modernité, parce que c'était un homme assez paradoxal, qui était à la fois conservateur et tourné vers une modernité, même quelquefois assez audacieuse. Il avait, sans du tout approuver ses revendications, il les sentait. Et peu de temps avant mai 68, il y avait eu un film de Godard qui s'appelait « La Chinoise ». Et Pompidou l'avait vu avec des amis, parce qu'il organisait des séances de cinéma à Matignon, auxquelles il conviait quelques amis. Et tout le monde avait avoué une certaine perplexité.
Voilà. Sauf Pompidou.
Pompidou n'avait pas dit qu'il avait tout compris, parce que c'était effectivement un objet non identifié. Mais il leur avait dit, ça préfigure en tout cas à un univers qu'on a du mal à imaginer. De sorte que quand mai 68 est arrivé, il n'a pas été, à la différence de pratiquement tout le reste de la classe politique, il n'a pas été complètement...
Il
n'est pas tombé des nues. Enfin, il a su hiérarchiser les problèmes et traiter le problème, non pas simplement en termes de maintien de l'ordre, comme beaucoup le voulaient dans la majorité de l'époque, mais en observant un dosage assez réussi entre justement le maintien de l'ordre et puis quand même la compréhension de la situation, et en évitant surtout que ça tourne que ça se termine dans un bain de sang, parce que c'était bien le problème.
Vous disiez à propos de Georges Pompidou qu'au premier abord, cet homme vous séduisait peu. Quand est-ce que votre point de vue a changé sur Pompidou?
Il me séduisait peu. Je veux dire, moi j'étais très, très, très gaulliste. J'ai même milité chez les jeunes gaullistes. Oui. Faut s'imaginer ce que pouvait être De Gaulle pour quelqu'un qui avait... je suis né en 51, donc j'avais entre 15 et... C'était un personnage vraiment extraordinaire, qui dominait toute la... Et même si c'était un peu la fin de son règne. C'était la figure de De Gaulle, effectivement, qui dominait tout pour moi. Et Pompidou avait un peu l'image de celui qui avait maltraité De Gaulle à la fin.
Tous les distingués.
Voilà, oui, tous les distingués. Et puis en travaillant sur Pompidou, j'ai fini par... j'ai pris d'abord la dimension du personnage, la dimension aussi de sa complexité, parce que c'est un homme extrêmement complexe, et avec des facettes, avec des contradictions qu'on ne peut pas résoudre, d'ailleurs, qui sont inhérentes à sa personnalité, qui en font l'intérêt. Et puis on voit l'attitude qu'il a eue face à l'adversité, oui. Oui, c'est ça qui d'ailleurs qui est très frappant. Là, je viens de finir un film qui sera diffusé là, dans quelques jours pour le 50e anniversaire de la mort de Pompidou. Et je fais ça avec, notamment avec Patrice Duhamel. Et ce film s'appelle Pompidou, la cruauté du pouvoir. Et on s'aperçoit effectivement que c'est un homme qui, par son personnage, était a priori destiné au bonheur. Et il se trouve que quand il approche du pouvoir, on a l'impression que les malheurs font sur lui, à la fois les problèmes, des problèmes politiques, parce qu'il y en avait tout de même, même si c'était une période beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, et puis surtout cette épreuve épouvantable de santé qu'il a eue et qui l'a emportée.
Et il a été très courageux face à la maladie. Oui. Il disait « Dans ma famille, on ne se couche que pour mourir ».
Oui, oui, oui.
Ça, c'est une formule qui revient.
Ça a même frappé Mitterrand, oui.
Oui, et il partageait ce point commun avec François Mitterrand, qui lui aussi a été frappé par la maladie.
Oui, oui, oui. Et comme je le raconte, je crois, j'avais été reçu par Mitterrand en février 83 pour parler de Pompidou. Et il m'avait dit, oui, c'est un homme qui a eu une vie relativement facile. Et puis tout d'un coup, à partir de mai 68, tout se retourne et l'adversité, il rencontre l'adversité, puis ensuite la maladie, etc. Et j'ai repensé à ça après. Je me suis dit, au fond, quand il me disait ça, il me parlait de lui aussi. Parce qu'il avait appris qu'il était atteint d'un cancer, à peu près dans les mêmes circonstances que Pompidou. Il n'a jamais su, je crois, exactement de quoi il souffrait. Mais enfin, on avait quand même décelé des choses tout à fait anormales. Oui, pratiquement au moment où il est entré à l'Élysée. Donc c'était une situation un peu comparable. Et quand on lit aussi ce que Pompidou a écrit, et publié dans les textes dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai publié avec Alain Pompidou en 2012, il y a donc un certain nombre de portraits de grands contemporains, et notamment Mitterrand. Il y a un portrait de Mitterrand qui n'est pas très long, mais qui traduit quand même de la part de Pompidou une certaine considération pour le personnage. Il dit que c'est un aventurier, enfin c'est un homme évidemment à certains égards tout à fait à l'opposé, mais il ressent quand même son envergure, sa stature, la culture aussi qu'il avait, et il n'y est pas complètement insensible.
Il n'y avait pas que de l'animosité. Parmi tous les hommes politiques que vous avez suivis, il y en a un peu particulier à vos yeux, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, cet homme c'est Pierre Mendès-France. Est-ce que vous pourriez réexpliquer aux auditeurs pourquoi cet homme vous est si cher ?
Pierre Mendès-France, c'est un homme qui a, c'est un autre paradoxe, il a exercé le pouvoir très peu de temps, puisque son gouvernement sous la 4e République a duré 7 mois et 17 jours, donc c'est peu. Mais en 7 mois et 17 jours, il a tout de même réglé pas mal de problèmes. D'abord, le problème de la paix en Indochine. Et il l'a fait, finalement, au mieux, sans doute, des intérêts français. À l'époque, bon, c'était pas simple. Il y avait une pression terrible aussi du côté américain. Il l'a pas fait de gaieté de cœur, mais il a quand même réussi à mettre fin à cette épouvantable guerre qui minait complètement la 4e République. Il a amorcé ensuite, immédiatement, enfin, quelques jours après, le processus d'autonomie, pas d'indépendance, parce qu'on fait souvent une erreur là-dessus, le processus d'autonomie de la Tunisie. Il est allé à Tunis, il a fait un discours, il est passé dans l'histoire, un discours devant le Bey de Tunis, qui était le souverain à l'époque de la Tunisie, dans lequel il a enclenché, ça a été un des premiers actes de la décolonisation. La décolonisation de la Tunisie a quand même été un exemple. Alors après ça, les choses sont allées plus vite que ce qu'il imaginait au départ. Mais enfin, il a enclenché et d'ailleurs, pour les Tunisiens, il est l'homme qui a donné voilà. Et les choses se sont quand même passées d'une façon plus pacifique qu'ailleurs, notamment qu'en Algérie. Mais c'est un personnage, oui, donc qui est paradoxal, parce qu'il a exercé le pouvoir très peu de temps, mais il a exercé une influence morale, non seulement sur une partie de la gauche, sur une grande partie de la gauche, et pendant très longtemps, il faut voir que jusque dans les années 70, le grand personnage à gauche, ce n'était pas Mitterrand, c'était Mendès-France, oui. Mendès-France a laissé la place à Mitterrand parce qu'il désapprouvait les institutions de 1958. Il était foncièrement attaché aux droits du Parlement et opposé à tout ce qui ressemblait au pouvoir personnel. C'est un homme dont l'influence s'est exercée aussi sur une partie de la, du centre et même, de la droite. D'ailleurs, le gouvernement Madès-France de 1954-55 était tout sauf un gouvernement de gauche. Il n'y avait pas de majorité à gauche à l'Assemblée, donc il y avait essentiellement des gaullistes, des radicaux, qui étaient le parti de Pierre Madès-France d'ailleurs. Et mais il n'y avait ni socialistes, ni a fortiori de communistes. Et d'ailleurs, il a refusé pour son investiture de tenir compte des voix communistes. Et donc il a exercé une influence plus grande qui dépassait le assez largement la gauche. Elle n'a jamais caché qu'il avait été madésiste à l'époque. Enfin, on pourrait trouver un certain nombre d'exemples. Et ce qui m'a, encore une fois, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est son attitude pendant la guerre. Il avait une attitude vraiment... il avait été extrêmement blessé par le traitement que lui avait infligé le régime de Vichy. C'est-à-dire qu'il avait été poursuivi parce qu'il s'était embarqué sur un paquebot, là, le Massilia, et il s'était retrouvé pris dans une nasse, et on les avait accusés de fuir.
Alors et de désertion.
Oui, de désertion. Il s'est senti blessé dans en tant que juif, parce que c'était bien pour ça qu'on le poursuivait. Et donc, quand il a réussi à s'évader et à rejoindre la France libre, il y a quelque chose de très singulier dans son itinéraire et qui, pour moi, est important. C'est qu'avant d'accepter les responsabilités gouvernementales que De Gaulle lui proposait, il a tenu à combattre vraiment. Il s'est engagé dans les forces françaises aériennes libres et il a effectué, notamment avec Romain Gary, plusieurs missions sur la France, etc. Si vous regardez, il n'y a pas eu tellement d'hommes politiques qui ont fait ça. Et je trouve que ça lui donne une singularité. C'est un homme qui a non seulement une envergure intellectuelle, mais une stature morale.
Et un courage notable. Et vous avez eu la chance de le rencontrer, Pierre Mendès-France.
Alors ça, c'est le hasard, oui. C'était en octobre 82. Je me souviens, c'était un samedi matin. Et comme je le raconte, il avait beaucoup changé. C'était impressionnant. Il avait l'impression qu'il était très, très, presque translucide. Enfin, c'était terrible. Et pendant que j'étais là, il a eu un malaise. D'ailleurs, à un moment, j'ai vu qu'il ne se sentait pas bien. Il m'a demandé pardon, il s'est absenté deux minutes, il est revenu avec un verre d'eau, puis il a pris un médicament. Bon, ça a eu l'air
de fonctionner.
De aller bien. Et puis on a parlé de Pompidou, effectivement, il m'avait dit en souriant, on ne s'est pas beaucoup fréquenté parce que moi j'étais déjà radical, et Pompidou, lui, était socialiste, mais un socialiste remuant, de sorte qu'on avait peu de choses à se dire et il n'y a pas eu beaucoup de liens. Et puis bon, donc je l'ai quitté comme ça. Et puis le lundi, je me souviens, je poursuivais mon enquête sur Pompidou. Je me souviens, j'étais dans le bureau de Charbonnel, Jean Charbonnel, qui avait été ministre de Pompidou et de Gaulle aussi, je crois. Et il s'est mis à un moment, il était 2h de l'après-midi, il s'est mis à parler de Madès-France, mais au passé. Alors j'ai fini, ça m'a intrigué, je lui ai dit, mais pourquoi en parlez-vous au passé? Mais il m'a dit, parce qu'il est mort. Et il est mort tout à l'heure, on vient d'annoncer ça. Alors, j'étais sidéré.
Et c'est comme ça que vous l'avez appris?
C'est comme je l'ai appris, mais évidemment, à l'époque, je ne prévoyais pas ni que j'écrirais un livre sur lui, ni que je serais amené à présider l'institut qui porte
et
son
oui,
nom.
Et oui, j'en viens à sa mort, on vous a proposé...
Non, pas à sa mort, non, après la publication de mon livre.
Après la publication.
Enfin, un peu avant même.
En 2007, vous avez présidé l'Institut Pierre Mendès-France.
Oui, c'est vrai que c'était inattendu, parce que j'avais pas d'engagement, j'ai jamais eu d'engagement similaire à ceux de Pierre Mendès-France, mais il se trouve que sa famille, ses amis ont aimé mon livre et m'ont demandé, donc j'ai hésité, et puis finalement j'ai accepté.
Vous l'avez accepté? Vous l'avez fait, vous avez porté cette mission pendant quelques années, une mission que vous avez prise avec beaucoup de sérieux, et de façon plus générale, vous avez la plupart du temps fréquenté, rencontré les hommes qui ont été par la suite vos sujets d'études, et je me demandais...
Non, pas tous, je n'ai pas rencontré De Gaulle.
Ah, Pierre Rossolette, oui,
non,
ou ni De Gaulle.
Non, pas Pierre Rossolette, ni De Gaulle, ni Pompidou.
Pour beaucoup.
Non, celui que j'ai le mieux connu, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Ça, Valéry Giscard d'Estaing, auquel j'ai consacré un livre en 2002 ans avant sa mort, en 2018. Lui, je le connaissais depuis la première fois que je l'ai vu, c'était en 82. Puis le hasard a fait qu'il m'est arrivé de revoir Valéry Giscard d'Estaing dans d'autres circonstances. Et puis un jour, il est venu à Versailles, où j'habite, parler de l'Europe. C'était en 2015. Et bon, là, on a eu un contact. J'ai compris à ce moment-là qu'il était disponible, quoi. Donc je lui ai écrit, puis voilà, ça s'est fait. Et alors là, je l'ai beaucoup vu pendant Je l'ai vu, j'ai eu au moins une quinzaine d'entretiens avec lui.
Il était nonagénaire, mais il restait très vif.
Ah oui, très vif. Jusqu'à la fin, la dernière fois que je l'ai vu, c'était 6 mois avant sa mort, oui. C'était au moment du confinement, juste avant le confinement. Oui, je l'ai revu. Mes amis me disaient, tu vas te brouiller avec lui. Parce que
Pourquoi?
Quand on écrit sur un personnage vivant, on risque, évidemment, on peut écrire des choses qui sont mal reçues, tout ça. Bon. En tout cas, ça ne s'est pas vérifié. Non seulement je ne me suis pas brouillé avec lui, mais il n'a exercé aucun droit de contrôle sur ce livre.
Et sur l'homme, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites qu'il a été victime d'une méprise malheureuse de la part du peuple français. Sa pudeur, c'est un homme très pudique, a été vue comme du mépris, ce qui lui a beaucoup fait défaut pendant son mandat.
Il y a deux choses qui l'ont fait, évidemment, qui ont fragilisé son action. Et c'est le fait qu'il avait un positionnement politique qui était étroit en France. Il représentait la famille libérale. Dans cette famille libérale, elle a des assises très très restreintes en France. Et comme il était vraiment fidèle à cette famille politique, à cet ancrage, il a cessé de se rattacher à cette tradition. Quand il a écrit un livre qui s'appelait « Deux Français sur trois » après 1981, c'était l'idée qu'il fallait, au fond, définir un groupe central qui avait pour but d'éliminer les extrémistes. Quoi. C'était ça l'idée. Et alors depuis, ça a été repris, notamment par le président actuel. Mais on voit bien que ça se heurte aussi à des difficultés. La tradition française, c'est quand même un rapport gauche-droite. Peut-être que ça a évolué, mais enfin, il y a quand même des tas de signes qui montrent que c'est une tradition qui perdure. Et Giscard s'est trouvé un petit peu gêné par ce positionnement. Et puis, il y avait aussi son personnage. C'était un homme qui était. Il avait bien conscience du fait que par la classe sociale à laquelle il appartenait, il se distinguait du commun des mortels. Ça, c'est bien évident.
Il en avait conscience.
Oui, il en avait conscience et il avait essayé de compenser ça alors par des tentatives qui ont été mal comprises. Par exemple, les dîners chez les Français. Et ça avait été tourné en dérision par la presse. On avait dit que voilà, que c'était enfin. Une sorte d'artifice. Et lui, il prétendait au contraire que ça avait très bien marché. Il disait même que ça avait beaucoup intéressé Deng Xiaoping, qui lui avait demandé de lui envoyer des collaborateurs pour mettre au point le même système. Enfin, ça avait été ressenti comme un artifice. Donc, c'est un personnage qui a été. Qui est encore largement méconnu.
Et dont le bilan devrait être réévalué aujourd'hui, c'est ce que vous dites
notamment sous l'angle des réformes de société qu'il a menées.
Sociétale très progressiste pour l'époque, la majorité à 18 ans, l'IVG, bien sûr, on en parle beaucoup.
Oui, l'IVG, il a insisté parce que, bien sûr, c'est Simone Veil qui a mené à bien cette réforme devant le Parlement. Mais enfin, on oublie de dire.
C'était durant son septennat.
C'est parce qu'il l'avait expressément voulu. Il en avait pris quand même le risque politique, puisqu'il en avait parlé durant la campagne qui a suivi la mort de Georges Pompidou en 1974. Donc il n'a pas pris les gens en traite. Il avait dit nettement que.
Qu'il le ferait.
Et on peut dire que ça lui a peut-être coûté, dans une certaine mesure, sa réélection en 1981, parce qu'il y a une partie de l'opinion à l'époque qui ne lui a pas pardonné. Donc c'est peut-être à ça qu'on reconnaît un homme d'État, c'est-à-dire c'est un homme qui est capable de prendre des positions et qui sait être en opposition avec sa famille politique, donc qui sait prendre un risque.
Dans le cadre de vos biographies, vous avez une démarche d'historien ou de journaliste. Comment vous positionnez ?
Non, j'essaye d'avoir une démarche d'historien, c'est-à-dire que j'ai... Pratiquement dans tous les cas, enfin à chaque fois que c'était possible, j'ai travaillé sur des archives. Alors, la frontière n'est pas toujours facile à délimiter. Quand j'ai commencé à travailler sur Pompidou venait de mourir, on n'avait pas accès aux archives. Donc j'ai mené une enquête essentiellement, j'ai vu peut-être 200 personnalités qui avaient plus ou moins connu Pompidou, pratiquement tous ses anciens ministres, ses collaborateurs, etc. Mais au fond, c'était comme ça. Je ne veux pas me faire des comparaisons insoutenables, mais par exemple, quand Thiers a écrit son histoire de la Révolution ou du Consulat et de l'Empire, il a agi de la même façon. Il a interrogé aussi beaucoup de gens. Donc, on peut dire que c'était aussi du journalisme. Enfin, c'est un peu à la frontière. Et puis, ce livre donc, a été publié en 1984, donc essentiellement sur la base d'entretiens. Et puis, 10 ans après. j'ai republié mon livre, mais là, on m'a donné accès aux archives de Pompidou. Voilà, donc je l'ai réédité, ce qui fait que ça lui a donné peut-être une assise qu'il n'avait pas auparavant. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir mené à bien cette enquête, qui m'a demandé beaucoup de temps.
Historien du présent, c'est une formule qui vous
Oui, bah, l'histoire du présent, ça a été... autrefois, les historiens, enfin universitaires, se méfiaient de cette notion, elle était même bannie, au fond. Alors, ça a quand même commencé à évoluer. Il y a quelqu'un qui a joué un grand rôle, c'est René Raymond qui a imposé cette idée que l'on pouvait avoir une approche scientifique du présent. Je pense que le journalisme conçu d'une façon rigoureuse peut avoir apporté à l'histoire du temps présent quelque chose d'intéressant.
Un mot sur le style biographique, qui est un genre qui a longtemps été dénigré en France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et est-ce que vous trouvez que la roue a tourné aujourd'hui ?
Aujourd'hui, la biographie est un genre qui a été réhabilité. Elle avait été, en quelque sorte, condamnée pour deux raisons. D'abord, par les auteurs marxistes qui considéraient, au fond, que l'étude d'un itinéraire personnel n'était pas pertinent, n'apportait rien, que ce qui était intéressant, c'était d'évoquer les rapports de force, etc. Et puis, aussi, sous l'influence de ce qu'on appelait la nouvelle histoire, qui s'intéressait, au contraire, aux sans-grades, aux obscurs, etc. Bah, jusqu'au jour, comme disait Jean-Baptiste Durosel, qui a été historien dans cette maison, lui, enfin, qui a été un des plus illustres membres de la section Histoire et Géographie de l'Académie des sciences morales et politiques, il disait à juste titre, on ne voit pas pourquoi l'étude des grands personnages serait moins intéressante que celle des sans-grades et des obscurs, ce qui est la vérité.
Et même les historiens de la nouvelle histoire ont fini par faire des biographies.
Oui, puisqu'on a vu Jacques Le Goff écrire sur Saint-Louis. François Furet préparait une biographie, je crois, de Napoléon. Pierre Chaunu, même, a écrit une biographie de Charles Quint. Donc, on s'est aperçu que c'était une problématique qui était fausse, que la biographie... Enfin, entendons-nous, la biographie peut apporter quelque chose à l'histoire, à condition qu'elle soit menée quand même dans des conditions avec le respect d'un certain nombre de critères sérieux. Voilà. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient dévalorisé ce genre, le fait qu'il y ait beaucoup de biographies qui tournaient autour de petites histoires, et qui n'avaient pas grand intérêt, qui n'apportaient rien finalement à la compréhension réelle d'une époque. Je crois que, pour en revenir à ce que j'ai fait, si on arrive à croiser toutes ces biographies de personnages assez différents, finalement, d'orientation, on finit par avoir quand même un éclairage qui n'est peut-être pas inintéressant sur la France depuis 1945. C'est peut-être ça que finalement, que plus ou moins consciemment, j'ai voulu faire.
Quand on termine votre livre, on le referme avec l'impression qu'on ne pourra jamais se passer de la figure de l'homme providentiel ou de la femme providentielle, c'est-à-dire une personne sur laquelle on concentrerait tous nos espoirs. Est-ce que, selon vous, cette figure restera immortelle dans notre imaginaire ?
Alors la France, je l'ai dit, est sans doute l'un des pays où le mythe de l'homme providentiel a des racines les plus profondes. C'est tout au long de l'histoire, il y a eu un certain nombre de personnages comme ça qui se sont imposés par Jeanne d'Arc, Richelieu, Louis XIV. Louis XIV, il occupait le pouvoir naturellement, mais et puis Napoléon, évidemment. Napoléon, c'est vraiment l'archétype. Mais tout au long, finalement, du XIXe siècle aussi, son neveu Louis-Napoléon Bonaparte a pris le relais.
À toutes les époques.
Alors souvent, ça s'est pas toujours bien terminé. Bon, il y a eu Pétain aussi, en 40. Après la chute du Second Empire, toute l'idéologie républicaine a été construite contre ça, contre le mythe de l'homme providentiel. Et donc tout ce qui ressemblait à quelque chose, ce qui pouvait évoquer une certaine personnification du pouvoir, était... à proscrire. Et donc, d'où le rôle complètement évanescent du président de la République.
Donc cette figure de l'homme providentiel a été constante dans l'histoire de France. Et pourtant, aujourd'hui, on peut avoir l'impression que les hommes et les femmes politiques suscitent moins d'engouement dans le grand public. Est-ce que les héros d'aujourd'hui auraient-ils déserté la politique ? Est-ce qu'ils sont ailleurs ?
Je crois qu'il faut aussi qu'il y ait un contexte, si vous voulez, pour que les hommes d'une certaine envergure se révèlent. S'il n'y avait pas eu la guerre, De Gaulle, il le disait lui-même, aurait fini sans doute colonel, il aurait écrit des livres comme ça, qui auraient été tirés à quelques milliers ou centaines d'exemplaires. Et il aurait fini peut-être dans l'amertume, dans le... Alors, il faut qu'il y ait des événements. Et c'est vrai que le cours apaisé de l'histoire depuis... enfin, relativement apaisé, depuis 1945, ne suscitait pas l'éruption de personnages. Et puis, il y a à la fois le mythe de l'homme présidentiel, mais il y a aussi son corollaire, c'est-à-dire la méfiance qui suscite dans une grande partie de l'opinion, et qu'on peut constater d'ailleurs encore aujourd'hui.
La dernière personnalité politique à laquelle vous vous êtes intéressé est Nicolas Sarkozy. Est-ce que les hommes politiques d'aujourd'hui vous intéressent toujours autant ?
Oui, ça m'intéresse. D'ailleurs, je prépare un livre sur le président.
Qui sortira bientôt ?
Il sortira, je pense, un peu avant la fin de son mandat. J'avoue que j'imaginais jamais écrire un livre sur un président qui pourrait être mon fils. Ça, c'est aussi quelque chose, un retournement de situation assez inattendu.
Vous avez donc, je le disais, consacré votre vie à retracer le destin de personnalités extraordinaires. Après toutes ces années d'observation, est-ce qu'une qualité commune se dégage parmi tous ces hommes ? Est-ce que vous insistez sur leurs différences, sur leurs singularités ? Mais tout de même, est-ce qu'il y a, un atout, une qualité commune que partagent tous ces hommes ?
Je crois que le système français qui a été voulu par De Gaulle en 1962, avec l'élection du président de la République au suffrage universel, il était fait en tout cas pour élever le niveau. Pour faire en sorte que des personnalités, seules de très fortes personnalités puissent être élues. Pour arriver à cette fonction, ça suppose quand même soit une longue expérience politique, soit dans le cas du président actuel, lui a révélé un caractère, des dispositions d'esprit, une habileté, évidemment, qui a fait qu'en très peu de temps, il a réussi à s'imposer.
Ce sera ma dernière question. Si vous deviez retenir une chose de tout ce travail, de toutes ces années d'enquête, qu'est-ce qu'ils vous ont appris toutes ces années ?
C'est une évidence de dire ça. C'est sûr que la biographie de De Gaulle, ça a été vraiment le tournant de ma vie. D'abord, je ne pensais jamais écrire une biographie de De Gaulle. Hein. Faut être un peu fou pour s'attaquer à un sujet comme ça. Et je ne l'aurais jamais fait si Gallimard ne me l'avait pas demandé. Et ça avait quelque chose quand même d'assez déstabilisant. Quand on évoque un personnage du type de De Gaulle, il y a une dialectique assez difficile à manier entre la mémoire et puis, les documents. Enfin, il y a la vérité de De Gaulle qui se superpose sans arrêt à la vérité qui existe. Et souvent, la vérité de De Gaulle, elle s'est imposée. Je crois que j'avais été l'un des premiers, sinon le premier, à pouvoir travailler sur De Gaulle à partir de documents, des archives, documents en principe fiables. Et quelquefois, sur un certain nombre d'épisodes, je m'apercevais que les événements s'étaient passés de façon différente de ce que le général avait raconté. Mais souvent, c'est assez normal d'ailleurs, il voyait ça lui de son point de vue, et puis il voulait, comme tous les hommes d'État qui écrivent l'histoire, il donne sa propre version. En général, c'est pas pour se dévaluer. Et donc quand on écrit sur un personnage de la dimension de Gaulle, un personnage de légende, la problématique est complètement différente. C'est pas du tout celle qu'on peut appliquer à des personnages qui peuvent avoir une certaine envergure, mais qui n'ont pas cette dimension mythique.
Et heureusement, grâce à tout ce travail d'enquête, on finit par les voir aussi sous un angle différent, et peut-être ce sera le cas aussi avec votre prochaine biographie d'Emmanuel Macron, qu'on attend avec une grande impatience.
Merci.
Merci beaucoup, Éric Roussel, pour cette plongée dans le monde d'avant. C'était Le Monde d'avant, carnet d'un biographe, c'est le titre complet du livre qu'on peut retrouver en version poche aux éditions Alpha. Merci beaucoup. Merci à vous.
Canal Académie.